Du coup, je me présente, voilà, je m'appelle Manuel Roux. À mon avis, pas mal de vous m'ont déjà vu sur des coms précédentes. Donc, je vais essayer un peu j'ai essayé un peu de faire évoluer ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je travaille sur l'étude des parcours de vie autour du concept de l'intelligence punk. Donc, ça sera ma com aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Solveig et Pierre, je suis doctorant cette année, du coup de cette année scolaire, en sciences de l'éducation à Bordeaux, co-dirigé par Solveig et Luc, que je remercie encore une fois de me faire participer à cette journée d'études. Mon sujet de thèse spécifique, c'est réussir en marge des institutions ou la question de l'intelligence punk et étude des carrières sociologiques punk et des nouvelles formes d'épanouissement personnel. Alors, ma volonté déjà, c'est d'avoir une approche non substantialiste du punk, parce que je trouve épistémologiquement ça n'a aucun intérêt. Enfin, je trouve même ça erroné. Et même, je trouve pas ça du tout punk en fait. Il n'y a pas d'essence punk, il n'y a pas de code esthétique propre au punk. À la limite, je pense, pour parler du punk, il faut parler de pratique autour du DIY, autour de la volonté de faire quelque chose en dehors des institutions. Là, je pense que pour moi, c'est punk. Comme l'a dit Tom, on peut parler de rap aussi, on peut parler de différentes façons de s'exprimer. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors certes, c'est mon début de thèse, mais ça fait déjà 3 ans maintenant que je travaille dessus. Donc j'ai quand même pas mal de données. Donc ça repose sur une recherche qui est ethnologique, donc des observations participantes à plusieurs moments, dans plusieurs lieux. Aussi, j'ai fait une ethnographie, une ethnologie du coup de tournée l'an dernier, une tournée européenne avec 2 groupes de musique. Du coup, en tenant un carnet ethnographique assez serré, en faisant aussi de la vidéo comme récolte de données. J'aimerais, quand j'aurai un peu plus de vidéos, faire un film pour présenter, quand j'aurai un peu plus de temps aussi, parce qu'à mon avis, ça demandera un peu de temps. Une quinzaine d'entretiens aussi autour d'acteurs de sexe et d'âge différents. Donc ça, c'était important. Même si ça se concentre autour de la vingtaine, il y a quand même, ça va de la vingtaine à plus de 50 ans. Donc pour moi, c'était important pour commencer à essayer de faire des carrières sociologiques, à essayer d'entrevoir. Et au niveau de la position de chercheur, la dernière communication à Paris, ici, qui a eu lieu il y a quelques mois, où Philippe Lyotard en a déjà bien parlé de cette position réflexive de terrain et du corps immergé du chercheur comme vecteur de connaissance du monde social. Donc théorisé par Loïc Vacan, entre autres, et par Pierre Bourdieu. Donc voilà, ça, je ne vais pas en reparler du coup, j'en ai déjà reparlé aussi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la conceptualisation de l'intelligence punk, alors de la notion, un certain monsieur m'a fait la réflexion, du coup, on va parler de notion. En étape 1, on va parler de l'ethnologie d'une tournée. Ensuite, on va essayer de la traduire en pratique. Et ensuite, on va essayer de tenter de la conceptualiser d'un point de vue un peu plus macrosocial en prenant un peu de recul. Alors, on va d'abord parler du booking. Qu'est-ce que c'est que le booking? C'est d'abord le choix des dates et du trajet, forcément. C'est d'abord faire un planning, tout ce qui est routing, la logistique aussi. Faire une identification des besoins, au niveau de la budgétisation, de savoir ce qu'on veut en termes de ressources humaines et de ressources matérielles. J'emploie une sémantique spéciale qui n'est pas à votre habitude, je suppose, mais c'est pour une raison particulière, donc je vous parlerai après. Et donc étudier en fait la faisabilité du projet. Voilà. Ensuite vient la prise de contact. Un des acteurs dit en ce moment j'ai la flemme de tourner pour une raison, c'est parce que je sais que ça va impliquer de booker une tournée. Mais ouais, booker une tournée, ce truc d'envoyer des mails, le fait d'aller chercher des gens sur Facebook parce que c'est des amis d'eux. C'est tellement long, c'est tellement un truc qui est pénible. Bon, ben, je pense que là, ça décrit bien ce que c'est que le fait de booker une tournée. C'est quelque chose qui se fait à peu près 6 mois, 8 mois à l'avance aujourd'hui, en utilisant les réseaux sociaux maintenant. Donc, c'est là où on voit aussi les différences générationnelles à l'époque où des personnes envoyaient des lettres. Maintenant, on utilise Facebook, Mail, Bandcamp. Voilà. Donc, c'est des pratiques qui dépendent un petit peu des changements sociétaux. Les listings aussi au niveau des mises en collaboration, c'est aussi un outil de suivi, de centralisation des informations. où on utilise la feuille de route aussi en tournée pour calculer les horaires, pour tout ce qui est l'information sur les promoteurs, etc. Les négociations aussi, trouver un terrain d'entente au niveau des frais aussi engendrés, de savoir, on va parler de door deal, on va parler de DIY conditions, de tout un tas de choses où on va donc formaliser sa demande, on va gérer les relances, on va utiliser un champ lexical pour les professeurs, on va utiliser l'anglais. Au niveau de la stratégie de communication, il y a un autre acteur qui dit, une fois que tu as fait ça, tu t'arranges pour que lui fasse de la promo, donc tu leur dis, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un event Facebook, tout ça en essayant de rester personnel, de ne pas les saouler, de ne pas être insistant, de les relancer pour qu'ils valident la date, en essayant de ne pas être relou, une espèce de tact à avoir qui est un peu chelou. Donc c'est là où on se rend compte que le capital social et culturel est assez important dans la scène pour savoir de quoi on parle, comment on parle, pourquoi on fait les choses. Et aussi pour prendre contact avec les personnes. Et ensuite, la promotion, qui est une collaboration avec les promoteurs. Donc voilà. La tournée, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, c'est une rupture par rapport au quotidien, avec des enjeux et des contraintes qui sont différentes. C'est une gestion de contraintes qui est quotidienne, au niveau du transport, technique et scénique, parce qu'on joue dans des lieux qui ne sont pas forcément adaptés à la production de musique amplifiée. Donc, il faut avoir des connaissances en termes de technique, de scénique, etc. La promotion aussi, le booking, des fois, qui se fait même en tournée. C'est arrivé que, personnellement, en tant que musicien, on book une tournée en pleine tournée parce qu'il y en a une qui a été annulée. Donc, ça, c'est super. Mais aussi le confort, évidemment, parce qu'on ne dort pas à l'hôtel. Donc, il faut savoir gérer ça. Ce qui est le plus important aussi, c'est la gestion de groupe et des accords tacites se mettent en place en tournée. Donc une intelligence de groupe pour faire face à une certaine routine quotidienne et aussi aux nouvelles contraintes. Une gestion de la promiscuité qui est aussi importante parce qu'on vit un peu dans le van, les uns entassés sur les autres. Une gestion du temps qui est énormément importante avec tout ce qui est feuille de route. Donc là, on parle vraiment de pilotage, de management et aussi de gérer ces nouvelles collaborations de tous les jours. Et puis aussi une gestion de soi. Alors je sais que là, les plus fervents punks ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais quand ça fait des semaines qu'on est en tournée, que ça fait qu'on enchaîne les dates tous les jours, qu'on enquille les kilomètres, c'est quand même une musique où on engage le corps. Une gestion physique pour faire des bonnes prestations, du sommeil, de l'hygiène, de la nourriture, et aussi de ne pas se beurrer la tête tous les soirs, c'est important. Et aussi psychologique, parce qu'il y a du stress face aux difficultés. Et puis aussi, on laisse peut-être des difficultés derrière soi. Alors, comment faire pour ne pas que ça influe sur tout le monde en tournée ? Voilà, avec la fatigue, c'est important. Donc, pour faire un petit peu une conclusion à mi-parcours de cette communication, c'est une intelligence, tout d'abord, qui est traduite en pratique. Donc, c'est savoir... Donc c'est là où on pourra parler de DIY parce qu'on adapte, y a une adaptation par rapport à l'environnement. Donc la mobilisation des ressources nécessaires, en adaptation aux constantes contraintes. Un ajustement des pratiques à des formes éthiques. Donc quand je parle d'éthique, c'est chacun traduit ses valeurs transmises dans le punk en pratique en fonction des situations. Par exemple, le merge des groupes. Tout le monde a un rapport qui est différent avec le merge. Des mises en auto-formation et du coup qui ne peut se faire que dans la collaboration puisqu'il n'y a pas d'argent pour se former, il n'y a pas d'université punk comme disait Tom. Il faut une connaissance de la scène qui est importante, du langage comme je le disais, des façons de faire, etc. Donc c'est des compétences relationnelles et des liens d'interdépendance qui sont conscientisés et valorisés, et ça c'est énormément important, et je pense que c'est là le point intéressant de notre punk contemporain, on va dire. Donc là, d'ailleurs, c'est bien illustré par l'une des personnes que j'ai interviewées. C'est marrant parce qu'en tournée, tu apprends à prendre soin des gens avec qui tu es pour que ça se passe bien. En gros, le mode de vie que j'ai trouvé dans la ZIC et dans le DIY a donné un sens pratique à tous les trucs que je pouvais apprendre. Donc, on va prendre un peu de recul là maintenant. On va parler de Dick Abdige. Alors, je vais éviter de vous faire subir mon accent anglais, Mais ce qu'il dit, c'est que, en gros, les produits de la vie quotidienne peuvent être symboliquement saisis et dotés de significations implicitement opposées par les groupes même qui les ont produits à l'origine. Donc là, en fait, il illustre qu'il y a un conflit idéologique et que le punk s'est construit autour de ça, mais qui va dans les deux sens. Et les punks sont assez, comment dire, habitués à cette vulgate, un peu de dire, de pas vouloir être repossédé de son objet culturel. Par exemple, le punk est aujourd'hui devenu une valeur marchande. Par exemple, on peut voir des t-shirts à H&M de groupes de musique qui étaient censés être subversifs et qui aujourd'hui sont juste vendus à des prix dérisoires dans des conditions horribles. Bon, bref. Il y a aussi une reproduction des pratiques. Fabien 1 en a parlé. Foucault parle d'entrepreneur de lui-même. Le punk est un entrepreneur de lui-même. Et donc, le punk doit constamment se réinventer pour continuer à exister. Parce que le punk est subversif, et comment être subversif quand on est repossédé de cette façon-là? Alors en fait, j'ai utilisé cette sémantique exprès, en fait, pour illustrer ce conflit idéologique qu'il y a. Et là, je vous ai mis en fait la maquette d'une grande école de commerce dont je ne citerai pas le nom, Kedge, voilà. où on parle exactement de cette même façon. Gestion de projet, alors pensez autrement, l'anglais, le marketing, le business game, le droit et le management, la connaissance de soi, la langue et le langage informatique. En fait, on se rend compte qu'on fait exactement la même chose dans le punk, avec des mots différents. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est déjà que quelle est la différence avec ça ? Mais peut-être que la différence avec ça, et ça j'irai plus loin là après là-dedans, c'est peut-être le sens qu'on y donne. Et donc du coup, en fait, sauf que là, on se rend compte où il est le conflit idéologique. Et là, le punk est assez habitué, c'est que pourquoi on parle de cette façon-là ? En fait, cette idéologie qui exclut toute légitimité à d'autres formes d'expérience en dehors du code normatif imposé. Cette idéologie qui voit l'être humain seulement comme un agent économique et soulève le paradoxe entre individualisme, c'est-à-dire cet être humain responsable de ses échecs et de ses réussites et libéré de toute contrainte et détermination, à une valorisation d'un État qui se dirait démocratique et qui nécessite en fait des liens d'interdépendance pour survivre. Donc en fait, on se rend compte que là, il y a un gros paradoxe. Alors là, il n'y a peut-être pas d'université de punk. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on paye 14 000 euros l'année pour avoir des expériences de vie. Dans des contextes qui sont juste seulement différents. Alors là, pour conceptualiser cette intelligence punk, je vais passer par Dewey. Et du coup, pour prendre un peu de recul, comme je l'ai dit, Dewey dit qu'en parlant d'une société démocratique, c'est une société qui permet à tous ses membres d'avoir une part égale à ses bienfaits et qui assure souplement le rajustement de ces institutions par interaction des différentes formes de vie communautaire et par là même démocratique. Cette société doit avoir comme type d'éducation qui amène les individus à s'intéresser personnellement aux relations sociales et à la conduite de la société et leur donne les dispositions qui garantissent l'évolution sociale sans avoir recours au désordre. Et en fait, Dewey, il illustre exactement ce paradoxe. En fait, qu'est-ce que serait du coup l'intelligence punk ? Ben c'est déjà pour lui, pour Dewey, l'intelligence, c'est de vouloir résoudre une problématique. Et la scène, en fait, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres communications, est productrice d'expériences et de situations. Mais aujourd'hui, le punk, plus qu'une mise en exergue des dérives et des contradictions, voire du cadre normatif imposé, c'est vouloir retrouver une cohérence entre idéologie et pratique, en mettant le sens social au centre des discours. C'est redonner un sens en ce que nous faisons et reconnaître du coup ces paradoxes. Donc voilà, l'intelligence punk serait de remettre en place les conditions de vie démocratique au sens de Dewey en fait. Dewey parle aussi d'esclavage moderne. En fait, en parlant d'esclavage moderne, il dit cette conception existe quand même quand il n'y a pas d'esclavage au sens juridique, pardon. On la retrouve chaque fois que les gens exercent des activités utiles à la société, mais dont ils ne comprennent pas l'utilité et pour lesquelles ils ne manifestent pas d'intérêt personnel. En fait, le soi, on se rend compte qu'il est interdépendant des autres. Et peut-être que le punk, dans ces situations, remet ce sens-là, dans les situations de tous les jours, dans sa production culturelle, dans sa diffusion, etc. Donc c'est tout d'abord des premières réponses qui seraient, d'un point de vue macrosocial, fonctionnaliste, c'est-à-dire le punk serait en fait de remettre en question et combler pour les acteurs qui se reconnaissent dans les choix alternatifs les failles de certaines institutions qui constituent le cadre normatif de l'existence. Et pourquoi en fait le punk serait légitime pour parler de ça ? Eh bien parce qu'en fait le punk est également par sa force créatrice, productrice des potentiels changements sociétaux de demain, bien avant aujourd'hui que ça soit étalé en politique ou sur la place publique, le punk parlait de sexisme, de véganisme, d'écologie, et il s'est construit autour de ces valeurs anticapitalistes. Donc voilà, le punk, qu'est-ce que c'est que les pratiques punk ? C'est une gestion de projet DIY, on pourrait dire, pour reprendre la sémantique du milieu de managérial. C'est une adéquation entre idéologie pratique et c'est un sens pratique comme moteur principal d'envie. Pour finir, alors j'en parlerai aussi après vers 18h, mais au niveau de la récolte de données, qu'est-ce que je vais continuer à faire ? Continuer ces ethnologies de tournée, de les filmer, de construire un journal ethnographique là-dessus. Faire une ethnologie dans un squat aussi, ça j'y tiens beaucoup, parce que je crois que ça ne s'est pas trop fait, et je pense que c'est intéressant de questionner ces modes d'existence. Et aussi d'autres entretiens pour réellement construire des matrices ontologiques, créer des espèces d'historicité, et comment en fait le punk a pu aider des personnes à construire leur vie. On s'aperçoit qu'en fait chez les punks, surtout dans la scène vieillissante, le punk a toujours fait partie de leur vie, et quel rôle a joué ce punk-là dans leur vie. À mon avis, ça serait intéressant de le traiter, et ce qui rejoint un petit peu ce que disait Tom. Je vous remercie.
Bon, on dispose de quelques minutes pour des questions, pour Tom ou pour Manu, ou pour les deux à la fois, parce que je pense qu'il y a effectivement pas mal de liens sur ces notions d'intelligence punk, et aussi sur... alors, Tom, l'épuisement, mais à mon avis, lâche pas la transmission quand même, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel dans les expériences de vie et dans comment on s'ouvre à quelque chose. Il y a toujours un moment où les choses se font.
Moi, ce serait pour Tom. Une question, une remarque, une question, si dans les témoignages que tu as eus, tu ferais, si la dualité que je vais t'exposer a du sens, si tu ferais une différence entre les gens qui se sont fait leur culture musicale toute seule et ceux qui ont eu des grands frères et autres. Et l'anecdote, c'est que quand tu parlais de gens qui venaient avec leurs enfants, etc., moi, j'ai découvert le punk, bon bref, avec Télérama, pour les 50 ans du rock, et j'ai eu envie à un moment donné, à force de faire des concerts, de transmettre ça volontairement. Et en fait, j'avais un demi-frère qui a 10 ans de moins que moi, et le jour de ses 15 ans, je l'ai emmené à la miroiterie. Je lui ai juste dit, écoute, viens, va, tu vas découvrir un nouveau lieu, etc., etc. Et j'y allais pas forcément pour faire un groupe, j'ai aussi emmené voir des gros groupes comme ça, mais c'était important de transmettre. Et là, en ce moment, il est en Asie du Sud-Est, et il m'a envoyé un message, il m'a dit, je pense à toi, je suis seul sur la muraille de Chine, en référence à LSD. Et je sais pas, peut-être, au fur et à mesure que tu auras plus d'entretien, peut-être faire le distinguo entre ceux qui avait déjà un repère d'un grand frère, etc., ou les autres qui se sont dit, hop, ça va être à moi de transmettre à mon niveau.
Voilà. Ouais, du coup, pour répondre à ça, en fait, c'est une question que je pose, ça, surtout dans les punks actuels. J'ai eu un entretien avec Thiel, justement, de Guerilla Poubelle, et en fait, c'était assez marrant parce que je lui ai dit, mais comment t'es venu au punk, toi ? Et il m'a dit, en fait, c'est ma grande sœur qui avait des cassettes. Parce qu'elle avait genre 5 ans de plus que moi, et j'ai écouté ça. J'écoutais tout ce qui était toutes les cassettes des années. Lui, il a quel âge ? Il a 35 ans, donc il a découvert ça vers 12 ans, donc il y a 23 ans, je sais plus en quel genre en 95. Et donc il écoutait un peu tout ce que sa sœur écoutait. En fait, il l'écoutait. Moi, dans mon cas, ça a été la même chose. J'écoutais les disques que mon frère écoutait. Je trouve que et toi, c'est marrant parce que tu parles aussi du fait que tu aies transmis à ton petit frère. Il y a une grande posture du grand frère justement là-dedans que j'étudie.
Moi, paradoxalement, ma sœur, c'est plus le rap. Comme on habitait bref en Seine-Saint-Denis, donc c'était plus les compilations Indépendant 93, les mixtapes Opus de Saint-Ouen, mais voilà, le côté punk, c'était déjà, même parmi mes collègues de classe ou quoi que ce soit, c'était pas ça.